Musique. Que me veux-tu ? La chronique de Gilles Cantagrel, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Dietrich Buxtehude, un nom un peu difficile à prononcer pour les Français. Et très longtemps, ce Buxtehude n'a été connu que des seuls organistes. Et il y a cela une raison. Car lui-même avait été organiste à la fin du XVIIe siècle et même reconnu alors comme le plus admirable, le plus célèbre de son temps. Et il avait bien entendu composé pour son instrument. On venait de loin à Lübeck où il exerçait pour le rencontrer, l'écouter, travailler avec lui. Et parmi tous ceux qui sont venus l'écouter, il y a, on le sait, le jeune Jean-Sébastien Bach de 20 ans. Alors voici comment les choses se sont passées. Dans les années 1860-1870, un grand musicologue allemand, Philipp Spitta, qui d'ailleurs lui-même jouait de l'orgue, avait entrepris une étude très approfondie sur Jean-Sébastien Bach, sa vie, son œuvre, qui allait être la toute première du genre, à laquelle d'ailleurs on se réfère encore aujourd'hui. Un travail considérable, de longue haleine, publié en deux très gros volumes. Lorsqu'il aborde les années de jeunesse du musicien, Spitta, bien sûr, rencontre ce voyage que le jeune Bach de 20 ans a fait pour rencontrer, à son tour, le vieux maître. Et il lui a donc fallu aller y voir de plus près pour savoir qui était ce grand compositeur si célèbre, complètement oublié depuis et qui avait justifié de faire 400 kilomètres à pied pour aller l'écouter. En faisant ce travail, il a découvert les œuvres pour orgue de Buxtehude. Et du fait qu'il était lui-même organiste, il était de plein pied pour les étudier de très près, il s'est pris de passion pour ses pages, et on comprend, il a tellement raison, et il n'a eu de cesse de les faire publier. De ce fait, il a révélé au monde musical le nom même de Buxtehude et son œuvre d'orgue que l'on a commencé à jouer de toutes parts. Enthousiasme général. Et le même Spitta a fait connaître les œuvres pour orgue de Buxtehude à son grand ami Johannes Brahms, lequel en a été ébloui et a rendu hommage à Buxtehude dans le dernier mouvement de sa 4e symphonie, qui est une grande passacaille, un peu à la façon de Buxtehude, même si c'est dans un langage plus moderne. Et peu à peu, jusqu'à nos jours, les études se sont succédées et la haute figure de Buxtehude est apparue au firmament de la musique européenne dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Dans ce mouvement, on a peu à peu découvert tout le reste de la production musicale de ce magnifique compositeur. Et Buxtehude appartient à peu près à la même génération que Purcell en Angleterre, Charpentier en France, Corelli en Italie, c'est-à-dire, en tout cas, à cette constellation de musiciens actifs à la fin du XVIIe siècle, au beau milieu de cette période historique que les esthéticiens nomment aujourd'hui le baroque. Ils n'ont jamais écrit de musique baroque, ça n'avait pas de sens à l'époque, mais aujourd'hui, avec le recul du temps, on appelle cette période le baroque, et ces musiciens vont exprimer un moment très particulier et très intense de la sensibilité collective. On pense que Buxtehude est né en terre danoise, au sud de la Scanie, cette région à l'extrême sud de la Suède, qui alors appartenait au royaume de Danemark. Son père, qui était organiste, venait de Oldesloe et la famille même d'une petite ville qui s'appelait Buxtehude, qui s'appelle toujours aux environs proches de Hambourg. Sa mère, elle, était vraisemblablement danoise, elle se prénommait Helle, mais c'est un prénom qu'on trouve aussi en Allemagne du Nord comme au Danemark. On sait d'ailleurs que dans son enfance, il écrivait le danois, on a des lettres de lui écrites en danois. Mais on sait très peu de choses de ses années de formation, sous la houlette paternelle, bien sûr, et on pense même qu'il est allé parfaire sa formation à Lübeck, auprès de Thunder, le grand Thunder, et à Hambourg, auprès de Scheidemann, qui étaient les meilleurs à l'époque dans toute l'Europe du Nord, les disciples du grand Swelinck. Toujours est-il que, de bonne heure, s'affirme un talent exceptionnel chez ce jeune homme. Il vient d'avoir 20 ans lorsqu'il est nommé organiste à l'église Sainte-Marie de Helsingborg, qui est sans doute sa ville natale. 2 ans plus tard, on le retrouve élu sur concours à l'église Sainte-Marie d'Elseneur, le fameux Elseneur de Hamlet, face au détroit du Sund, face à la Suède. Et là, il devient un collègue de son propre père dans l'autre église de la ville, Saint-Olaf, et il est payé presque le double de ce que perçoit son père, ce qui est la juste reconnaissance d'un talent déjà éclatant. Ici, comme là, il s'emploie à faire restaurer, agrandir les orgues dont il a la charge. Du même coup, il supervise les facteurs d'orgue, il apprend le métier, l'expertise de l'orgue. Et auprès de ses parents, de ses frères et sœurs, il va demeurer à Elseneur 8 années, composant pour l'orgue, mais aussi des concerts spirituels pour les voix et sans doute aussi des pièces de clavecin. Or, voici que disparaît Franz Thunder, l'organiste et administrateur de l'église Sainte-Marie de Lübeck, la capitale encore de la Hanse. Plus pour longtemps, mais c'est encore une ville qui est au centre de cet immense marché économique de l'Europe du Nord qui a perduré pendant 4 siècles. Le poste de Sainte-Marie est important. De nombreux candidats se prestent à la succession de Thunder, dont Buxtehude, naturellement, d'autant qu'il avait vraisemblablement travaillé avec lui auparavant. Lequel Buxtehude est élu devant tous les autres, cela ne nous étonne pas. À 30 ans donc, Dieterich Buxtehude est officiellement intronisé organiste et du même coup administrateur de l'église Sainte-Marie, la principale des 10 églises de Lübeck, qui est celle du conseil municipal et du quartier des affaires, des riches marchands et des navigateurs. Sitôt arrivé à Lübeck, tout s'enchaîne dans les règles, le jeune homme acquiert la citoyenneté lubécoise, il prête serment, peu après il se marie et il épouse, selon la tradition, en usage dans ces pays, une fille de son prédécesseur, Franz Thunda, qui lui donnera 7 enfants, 7 filles d'ailleurs. On a beaucoup glosé sur cette clause matrimoniale. Le texte précis qui en parle nous dit que on pouvait en fait éventuellement, c'était une affaire d'agrément privé, ou bien s'entendre avec la veuve ou les héritiers contre une certaine somme d'argent, comme on achetait les charges d'avocat, d'huissier, que sais-je, ou bien épouser une fille ou une nièce, ou la veuve si elle était encore en âge de se marier, que sais-je. Et toujours est-il que c'est, semble-t-il, un mariage heureux et une vie sans histoire. La famille loge dans la grande maison de fonction de l'église, la maison de l'œuvre de Sainte-Marie, juste en face de l'église. Et là, elle hébergera des parents, des amis de passage, la belle-mère de Buxtehude y finira ses jours, et puis un beau-frère et une belle-sœur qui étaient un peu dans l'embarras. La maison est grande, et il est vraisemblable d'ailleurs entre nous que le jeune Jean-Sébastien Bach, pauvre, quand il est venu à Lübeck et qu'il est resté 3 mois, a logé sous le toit de Buxtehude. On a dû lui trouver dans une mansarde une paillasse et puis de quoi subsister, en tout cas à l'abri des intempéries, d'autant que c'était en plein hiver. Le musicien s'est fait installer au rez-de-chaussée de la grande maison un cabinet de travail où il a sa bibliothèque. Il est admiré de tous et il restera à Lübeck jusqu'à la fin de ses jours pendant 40 années. L'église de Sainte-Marie, où va donc officier Buxtehude, est un immense vaisseau gothique de briques rouges à trois nefs qui mesure plus de 100 mètres de long, près de 60 mètres de large et 40 de hauteur. Il y a deux grands orgues établis dans cette église, le principal au fond de la nef, l'autre dans le transept nord, qui avait été transformé en une chapelle qu'on appelait la danse macabre en raison d'une magnifique fresque qui en ornait deux des parois, la troisième étant occupée par l'orgue. C'est là qu'avaient lieu les funérailles. Avec son jubé qui supporte un troisième orgue, plus modeste, le somptueux maître-autel baroque, les monuments funéraires et commémoratifs, la chaire de marbre, les stalles sculptées, l'horloge astronomique réputée dans tout le monde germanique, eh bien, l'intérieur de l'église a tout pour impressionner le visiteur. Elle est très réputée. Et les guides touristiques de l'époque, parce qu'il y en avait, des sortes de Baedeker, en louent les beautés et louent également la qualité de la musique que l'on y entend.
Thank you.
Lübeck, Buxtehude a des fonctions très importantes. Il est l'organisateur de la vie musicale de l'église. Et comme c'est l'église principale, il se trouve du même coup être le premier musicien de la cité. Il cumule ses fonctions avec celles d'administrateur et de trésorier de la paroisse. Il va devoir tenir des livres de comptes semaine après semaine, année après année, reliés par année. Et ces livres de comptes, ou du moins ce qu'il en reste aujourd'hui à peu près la moitié, sont une source d'information de premier plan pour l'historien. À ce titre, il règle les activités de l'Église, il va faire acheter ou réparer des instruments qui appartiennent à l'Église, engager des musiciens permanents ou des musiciens occasionnels de passage, il gère toutes les musiques que l'on exécute pour les noces, les funérailles, les fêtes, qu'elles soient religieuses ou d'ailleurs civiles, puisqu'en ce temps, il n'y a pas de frontière entre le domaine religieux et le domaine citoyen. Il a la haute main sur les musiciens municipaux, ils sont 7 à cette époque, ainsi que sur les musiciens de l'église, sur la manécanterie de l'école Sainte-Catherine, il supervise les activités du cantor, qui est le professeur de musique, il a à composer les musiques dont on a besoin, et c'est encore pas tout, il reçoit divers collègues étrangers, fait travailler des élèves particuliers, se rend chez les riches notables de la cité, ils ont encore de l'argent à cette époque-là, quand il arrive en tout cas, avec quelques collègues pour participer à leur réunions privées en les ornant des plus belles musiques. Dès son arrivée à Lübeck, Buxtehude prend des initiatives importantes. Au fond de l'église se trouvent, sur la paroi du fond de l'église, du côté ouest, deux grandes tribunes. Le grand orgue est placé sur la tribune supérieure et en dessous on peut mettre des chanteurs ou des musiciens. Mais ces deux tribunes du fond sont flanquées de part et d'autre, de chaque côté dans la nef, de deux petites tribunes en encorbellement qui permettent de placer des instrumentistes et des chanteurs. et avec eux, de réaliser des effets d'écho, de stéréophonie ou de polychoralité, comme on le faisait à Saint-Marc de Venise à cette époque. Et sans être allé à Saint-Marc, Buxtehude était parfaitement informé des musiques que l'on y faisait parce qu'elles étaient éditées et circulaient largement en Allemagne. Eh bien, ça ne suffit encore pas à Buxtehude, qui fait immédiatement, dès son arrivée, aménager une tribune supplémentaire de part et d'autre de la nef. Et il dispose désormais de 6 tribunes latérales, 3 et 3 de chaque côté, en encorbellement, en plus des 2 grandes tribunes du fond. Alors, pourquoi tout cela? Eh bien, parce qu'il va prendre, autre initiative et de taille celle-ci, il va prendre en charge les veillées musicales, des Abendmusiken, comme on dit en allemand, qui vont perdurer jusqu'en 1810. Et voilà l'histoire de ces veillées musicales. Son beau-père, Thunder, donnait une fois par semaine une audition d'orgue à l'intention des marchands et des financiers lorsqu'ils se rendaient à la bourse. Avant d'aller traiter des affaires financières, eh bien, ils écoutaient un petit peu d'orgue. Car c'était à leur demande même que Thunder avait créé cela. Les temps ont bien changé. De fil en aiguille, Thunder en était arrivé à organiser des concerts où l'on entendait des sortes de cantates dramatiques, des oratorios. Buxtehude reprend donc les choses en main, il développe ses moments musicaux et va en faire une véritable institution qui va perdurer, je le disais, jusqu'au début du XIXe siècle. C'est Napoléon qui a fait chuter complètement cette tradition. Et bientôt, une veillée musicale va prendre place après les Vêpres, les 5 dimanches précédant Noël. Et ça, c'est extraordinaire parce que, rendez-vous compte, les gens qui allaient à la messe le matin qui durait entre 3 et 4 heures, aux Vêpres l'après-midi entre 2 et 3 heures, non contents de cela, ils écoutaient encore pendant une heure un concert spirituel dans une église non chauffée, immense, alors qu'il faisait dehors moins 25 degrés. Mais on avait trouvé un système de location de petits braseros, des petites chaufferettes que les gens emportaient avec eux. On entendait dans ces cérémonies, dans ces veillées musicales, des oratorios en 5 épisodes, généralement répartis sur les 5 dimanches, avec des chorales, des motets, de la musique d'orgue. Ça coûtait de l'argent. Et ça, c'était des extras par rapport au budget de l'Église que Buxtehude ne pouvait pas débloquer. Alors, pour supporter les frais occasionnés par ces concerts, le musicien faisait appel à la générosité des grandes familles de la ville qu'il côtoyait au quotidien et qui étaient en quelque sorte les bienfaiteurs, les mécènes, aujourd'hui on dirait les sponsors, c'est un vilain mot, de ces concerts. Alors, on possède quelques descriptions de ces veillées musicales, mais toutes les musiques ont aujourd'hui disparu, sans doute dans l'incendie de la ville qui a suivi le bombardement de 1942, ce bombardement qui a entraîné la destruction quasi totale de l'église Sainte-Marie. Tout l'intérieur a brûlé, les orgues, les fresques, tout le mobilier. Il ne restait que quelques murs calcinés et on a reconstitué complètement cette église dans cette très belle ville de Lübeck. Mais hélas, l'intérieur ne correspond plus du tout visuellement ni même acoustiquement à ce que c'était du temps de Buxtehude. Mais certains concerts spirituels de Buxtehude peuvent en donner quand même une lointaine idée. Alors, je propose, pour se faire petite idée, d'écouter le début du Benedicam Dominum, en latin, non pas en allemand, un morceau, une sorte de grand motet polychoral qui fait appel à 6 chœurs vocaux ou instrumentaux, qui correspondent de toute évidence aux 6 tribunes de l'église Sainte-Marie. 2 ensembles vocaux vont faire appel respectivement à 5 et à 4 voix. Quant aux instruments, ce sont 2 violons, un violone qui est une basse de viol, 4 trompettes, un trombone, une bombarde, 2 cornets, un basson, 3 trombones et les instruments de la basse continue. La quasi-totalité des œuvres de Buxtehude est demeurée inédite. Et il y a une bonne raison à cela. Qui donc aurait acheté des partitions d'oratorio, de concerts spirituels ou de difficiles pièces d'orgue destinées à la liturgie ? Ce n'est pas du ressort des particuliers. Il a donc fallu, au cours du XXe siècle, faire des recherches considérables pour réunir un important corpus d'œuvres du musicien, les authentifier et les éditer. Elles étaient d'ailleurs principalement à la bibliothèque de l'université d'Uppsala, près de Stockholm, car Buxtehude avait un ami qui était le maître de chapelle du roi de Suède, et il lui envoyait de sa musique qui pouvait toujours lui servir, et ce monsieur Andreas Düben a eu le bon goût de les conserver précieusement, et ses héritiers en ont fait autant. Grâce leur soit rendue, sinon on ne connaîtrait rien de cette musique. Cette musique qui a été publiée au cours du XXe siècle, et la fin de la publication intégrale ne s'est produite qu'il y a quelques années seulement, à l'aube du XXIe siècle. Mais Buxtehude a quand même fait graver, à notre connaissance, trois recueils de pages destinées aux amateurs, trois recueils de musique de chambre, dont deux seulement ont survécu. Ce sont des cahiers de sept sonates, sept le chiffre de la Genèse, qui était cher à Buxtehude, qui organise souvent ses œuvres en sept parties. D'ailleurs, le recueil qui nous manque, on a son titre, c'était sept sonates sur les sept planètes alors connues dans le système solaire. Ces sonates pour trois instruments sont des pages merveilleuses d'invention, une invention jaillissante, constamment renouvelée, riche de poésie, telle que le musicien devait les offrir à ses mécènes et venir les jouer sous leur toit. Thank you. Ce que l'on connaît de la personnalité de Buxtehude fait apparaître un homme de grande culture. Je parlais donc du système solaire. Il était certainement très informé de l'harmonie du monde, des traités de Kepler, tout dans sa musique, dans la structure de sa musique, permet de le supposer. Il lisait et écrivait plusieurs langues mortes et vivantes. Il était intéressé manifestement, outre l'harmonie du monde, par la théologie, autant de choses qu'il cherchait à traduire dans sa musique, dans les formes musicales qu'il créait. Et il était épris de science musicale, précisément, au point d'écrire des canons complexes, ce qui est le plus difficile à écrire dans toute la musique. Mais il n'y a pas que ça, ce n'est pas un homme très savant, c'est avant tout, et la moindre de ses musiques le montre à l'évidence, c'était un être de bien, d'une grande générosité, d'une grande sensibilité, un être qui plaçait très haut son idéal d'artiste. Cette grande sensibilité lui faisait exprimer les passions de l'âme de la façon parfois la plus vive, et je voudrais en donner un exemple. À l'âge de 70 ans, son père, qui était resté à Elsener, devenu veuf, souhaite se retirer. Eh bien, son fils va l'accueillir sous son toit pour permettre à ce vieux monsieur de finir son existence dans la paix auprès de ceux qu'il aime, en famille. Et lorsque 2 ans plus tard meurt ce père bien-aimé, vénéré, son fils va composer pour lui, à sa mémoire, peut-être pour une cérémonie commémorative, la musique et le texte, le poème des 7 strophes d'une élégie, que peut-être d'ailleurs il a chanté lui-même. Ainsi, il tenait à honorer son père, et au point de faire imprimer ce morceau, arraché au plus profond de lui-même. On va en écouter la première strophe et je voudrais vous en donner le texte que j'ai traduit du vieil allemand, et c'est très beau. « Faut-il donc que la mort vienne séparer ce que rien ne saurait séparer ? Faut-il donc que me soit arraché celui à mon cœur attaché ? Séparation d'avec son père fait souffrir douleur trop amère. Quand de la poitrine on nous ôte le cœur, plus que la mort nous point telle douleur. » Thank you. Au soir de sa vie, la renommée du vieux maître s'étend dans toute l'Europe du Nord. Les jeunes musiciens viennent l'écouter. Depuis Hambourg, ce sont Händel, âgé de 18 ans, en compagnie de son ami Matheson, de 22 ans. C'est à Matheson que le conseil municipal de Lübeck songe pour succéder le jour venu à Buxtehude, qui porte maintenant le poids des ans. Mais se sentant promis à une autre destinée, et son avenir l'a prouvé, le jeune homme va décliner cette invitation pourtant flatteuse. Alors on a dit que la perspective d'épouser, selon la tradition, j'en parlais tout à l'heure, l'une des filles du maître l'aurait fait fuir parce qu'elle aurait été d'une laideur repoussante. Alors ça, c'est une pure légende. On n'a d'ailleurs même pas de portrait de la dite fille, on ne sait même pas de laquelle il s'agit. C'est même, je trouve, une galéjade assez sotte et déplaisante. Aucun texte ne parle de cela et évidemment, aucun portrait ne vient attester la chose. Et on n'est pas davantage informé sur le séjour de 3 mois que le jeune Bach fit à Lübeck en 1705-1706, c'est-à-dire 1706, un an avant la mort du vieux maître. Et malheureusement, les registres des comtes de Sainte-Marie de cette année-là ont disparu. On aurait sans doute eu des informations intéressantes. Le jeune Jean-Sébastien savait qu'il devait compléter sa formation professionnelle. Il était orphelin, il avait appris la musique comme il avait pu, auprès de très bons maîtres, comme Böhm par exemple, mais il savait bien qu'il lui restait à accomplir le pèlerinage de Lübeck pour se mettre à l'école du plus grand maître vivant dans les terres germaniques. Il était pauvre, il fit donc le voyage à pied, 400 kilomètres aller et autant retour, par un temps quand même plutôt défavorable. Il part fin octobre, il revient fin janvier. Et à pied, je dis bien que ce n'est pas du tout une légende, c'est son fils cadet, Carl-Philippe Emmanuel, qui témoigne de la chose. Il choisit la période de l'année la plus riche en musique, celle des fameuses Abendmusiken, les fameuses veillées musicales. Mais cette année-là, en plus, seraient produits, à la même époque, 2 oratorios exceptionnels du maître, pour célébrer l'empereur défunt et le nouvel empereur. Évidemment, le jeune Bach a entendu tout cela. Il a entendu les oratorios, il a même sans doute participé, parce qu'on avait besoin de renforts. Et le choc a été bouleversant. Bouleversant à tel point que toute sa musique va le montrer. À son retour dans la ville d'Arnstadt, il est sévèrement réprimandé par le consistoire. Il se trouve qu'on a conservé le verbatim de sa comparution. C'est d'ailleurs tout à fait étonnant. On en sent que ce jeune homme, maintenant tellement sûr de lui, qui s'est confronté au plus grand maître, qui maintenant a une certitude de son savoir et de ce qui lui a été remis entre les mains, le flambeau de la musique allemande, tellement sûr et maître de lui qu'il répond presque avec impertinence à ces messieurs du consistoire. « Qu'êtes-vous donc allé faire à Lübeck ?» Et il répond « Apprendre diverses choses utiles à mon art. » Point. C'est tout de même presque insolent vis-à-vis de ces vieux messieurs. Mais peu lui importait. Il venait de recueillir l'héritage musical et spirituel du plus grand des maîtres et désormais, toute son œuvre le montre, il s'en nourrira toute sa vie.